Chapitre 4. Le courrier. Évocation. La voix. Il était 6 heures du soir. Dans cette chambre de la rue Saint-Claude, où nous avons déjà introduit nos lecteurs, Balsamo était assis près de Lorenza, éveillé, et essayait par la persuasion d'adoucir cet esprit rebelle à toutes les prières. Mais la jeune femme le regardait de travers, comme Didon regardait Aîné prêt à partir, ne parlait que pour faire des reproches et n'étendait la main que pour repousser. Elle se plaignait d'être prisonnière, d'être esclave, et de ne plus respirer, de ne plus voir le soleil. Elle enviait le sort des plus pauvres créatures, des oiseaux, des fleurs. Elle appelait Balsamo son tyran. Puis, passant du reproche à la colère, elle mettait en lambeaux les riches étoffes que son mari lui avait données pour égayer par des semblants de coquetterie la solitude qu'il lui imposait. De son côté, Balsamo lui parlait avec douceur et la regardait avec amour. On voyait que cette faible et irritable créature prenait une énorme place dans son cœur, sinon dans sa vie. « Lorenza, lui disait-il, mon enfant chéri, pourquoi montrer cet esprit d'hostilité et de résistance ? Pourquoi ne pas vivre avec moi, qui vous aime au-delà de toute expression, comme une compagne douce et dévouée ? Alors vous n'aurez plus rien à dire, alors vous serez libre de vous épanouir au soleil comme ces fleurs dont vous parliez tout à l'heure, d'étendre vos ailes comme ces oiseaux dont vous enviez le sort. Alors nous irions tous deux, partout ensemble, alors vous reverriez non seulement ce soleil qui vous charme tant, mais encore les soleils factices des hommes, ces assemblées où vont les femmes de ce pays. Vous seriez heureuse selon vos goûts, en me rendant heureux à ma manière. Pourquoi ne voulez-vous pas de ce bonheur, Lorenza, qui, avec votre beauté et votre richesse, rendrait tant de femmes jalouses ? Parce que vous me faites horreur, répondit la fière jeune femme. Balsamo attacha sur Lorenza un regard empreint à la fois de colère et de pitié. Vivez donc ainsi que vous vous condamnez à vivre, dit-il, et puisque vous êtes si fière, ne vous plaignez pas. « Je ne me plaindrais pas non plus si vous me laissiez seul. Je ne me plaindrais pas si vous ne vouliez point me forcer à vous parler. Restez en dehors de ma présence, ou, quand vous en viendrez dans ma prison, ne me dites rien, et je ferai comme ces pauvres oiseaux du sud que l'on tient en cage. Ils meurent, mais ils ne chantent pas. » Balsamo fit un effort sur lui-même. « Allons, Lorenza, dit-il, de la douceur, de la résignation. » Lisez donc une fois dans mon cœur, dans ce cœur qui vous aime, au-dessus de toute chose. Voulez-vous des livres ? Non. Et pourquoi cela ? Des livres vous distrairont. Je veux prendre un tel ennui que j'en meurs. Balsamo sourit, plutôt essaya de sourire. Vous êtes folle, dit-il. Vous savez bien que vous ne mourrez pas tant que je serai là pour vous soigner et vous guérir si vous tombez malade. « Oh !» s'écria Lorenza, « vous ne me guérirez pas le jour où vous me trouverez étranglé au barreau de ma fenêtre avec cette écharpe. » Balsamo frissonna. « Le jour, continua-t-elle exaspérée, où j'aurais ouvert ce couteau et où je me le serais plongé dans le cœur. » Balsamo, pâle et couvert d'une sueur glacée, regarda Lorenza et, d'une voix menaçante, « Non, dit-il, Lorenza, vous avez raison, ce jour-là, je ne vous guérirai point, je vous ressusciterai. » Lorenza poussa un cri d'effroi. Elle ne connaissait pas de borne au pouvoir de Balsamo, elle crut à sa menace. Balsamo était sauvé. Tandis qu'elle s'abîmait dans cette nouvelle cause de son désespoir, qu'elle n'avait pas prévue, et que sa raison vacillante se voyait enfermée dans un cercle infranchissable de torture, la sonnette d'appel agitée par Fritz retentit à l'oreille de Balsamo. Elle tinta 3 fois, rapidement et à coups égaux. « Un courrier, dit-il. » Puis, après un court intervalle, un autre coup retentit. « Et pressé, dit-il. » « Ah ! Fit Lorenza, vous allez donc me quitter ?» Il prit la main froide de la jeune femme. « Encore une fois, dit-il, et la dernière, vivons en bonne intelligence, vivons fraternellement, Lorenza. Puisque la destinée nous a liés l'un à l'autre, faisons-nous de la destinée une amie et non un bourreau. » Lorenza ne répondit rien. Son œil fixe et morne semblait chercher dans l'infini une pensée qui lui échappait éternellement et qu'elle ne trouvait plus, peut-être pour l'avoir trop poursuivi, comme il arrive à ceux dont la vue a trop ardemment sollicité la lumière après avoir vécu dans les ténèbres et que le soleil a aveuglé. Balsamo lui prit la main, la lui baisa sans qu'elle donnât signe d'existence, puis il fit un pas vers la cheminée. À l'instant même, Lorenza sortit de sa torpeur et fixa avidement les yeux sur lui. « Oui, murmura-t-il, tu veux savoir par où je sors pour sortir un jour après moi, pour fuir, comme tu m'en as menacé, et voilà pourquoi tu te réveilles, voilà pourquoi tu suis mon regard. » Et passant sa main sur son front, comme s'il s'imposait à lui-même une contrainte pénible, il tendit cette même main vers la jeune femme, et d'un ton impératif, en lui lançant son regard et son geste comme un trêve à la poitrine et les yeux, « Dormez !» dit-il. Cette parole était à peine prononcée que Lorenza, pliée comme une fleur sur sa tige, sa tête vacillante un instant, s'inclina et alla s'appuyer sur le coussin du sofa. Ses mains, d'une blancheur mate, glissèrent à ses côtés en effleurant sa robe soyeuse. Balsamo s'approcha, la voyant si belle, et appuya ses lèvres sur ce beau front. Alors toute la physionomie de Lorenza s'éclaircit, comme si un souffle sorti des lèvres de l'amour même avait écarté de son front ce nuage qui la couvrait. Sa bouche s'entr'ouvrit, frémissante, ses yeux nagèrent dans de voluptueuses larmes, et elle soupira comme durent soupirer ces anges qui, au premier jour de la création, se prirent d'amour pour les enfants des hommes. Balsamo la regarda un instant comme un homme qui ne peut s'arracher à une contemplation, puis, comme le timbre retentissait de nouveau, il s'élança vers la cheminée, poussa un ressort et disparut derrière les fleurs. Fritz l'attendait au salon avec un homme vêtu d'une veste de coureur et chaussé de bottes épaisses armées de longs éperons. La physionomie vulgaire de cet homme annonçait un homme du peuple, son œil recelait une parcelle de feu sacré qu'on eût dit lui avoir été communiqué par une intelligence supérieure à la sienne. Sa main gauche était appuyée sur un fouet court et noueux, tandis que sa main droite figurait des signes que Balsamo, après un court examen, reconnut et auxquels, muet lui-même, il répondit en effleurant son front du doigt indicateur. La main du postillon monta aussitôt à sa poitrine, où elle traça un nouveau caractère qu'un indifférent n'eût pas reconnu, tant il ressemblait au geste que l'on fait pour attacher un bouton. À ce dernier signe, le maître répondit par l'exhibition d'une bague qu'il portait au doigt. Devant ce symbole redoutable, l'envoyé plia un genou. « D'où viens-tu ? » dit Balsamo. « De Rouen, maître. » « Que fais-tu ? » « Je suis courrier au service de Madame de Gramont. » « Qui t'a placé chez elle ? » « La volonté du grand Cofte. » « Quel ordre as-tu reçu en entrant à son service ?» De n'avoir plus de secret pour le maître. Où vas-tu? À Versailles. Qui portes-tu? Une lettre. À qui? Au ministre. Donne. Le courrier tendit à Balsamo une lettre qu'il venait de tirer d'un sac de cuir attaché derrière son dos. Dois-je attendre? Demanda-t-il. Oui, j'attends. Fritz. L'Allemand parut. Cache Sébastien dans l'office. Oui, maître. « Il sait mon nom, » murmura l'adepte avec une superstitieuse frayeur. « Il sait tout, » lui répliqua Fritz en l'entraînant. Balsamo resta seul. Il regarda le cachet bien pur et bien profond de cette lettre que le coup d'œil suppliant du courrier semblait lui avoir recommandé de respecter le plus possible. Puis, lent et pensif, il remonta vers la chambre de Lorenza et ouvrit la porte de communication. Lorenza dormait toujours, mais fatiguée, mais énervée par l'agitation. Il lui prit la main, qu'elle serra convulsivement, et appliqua sur son cœur la lettre du courrier, toute cachetée qu'elle l'était. « Voyez-vous ? » lui dit-il. « Oui, je vois, » répondit Lorenza. « Quel est l'objet que je tiens à la main ? Une lettre. Pouvez-vous la lire ? Je le puis. Lisez-la donc alors. » Alors Lorenza, les yeux fermés, la poitrine haletante, récita mot à mot les lignes suivantes que Balsamo écrivait sous sa dictée à mesure qu'elle parlait. « Cher frère, Comme je l'avais prévu, mon exil me sera au moins bon à quelque chose. J'ai quitté ce matin le président de Rouen. Il est à nous, mais timide. Je l'ai pressé en votre nom. Il se décide enfin et les remontrances de sa compagnie seront avant 8 jours à Versailles. Je pars immédiatement pour Rennes afin d'activer un peu Caradec et la Chalotais qui s'endorment. Notre agent de Caudebec se trouvait à Rouen. Je l'ai vu. L'Angleterre ne s'arrêtera pas en chemin. Elle prépare une verte notification au cabinet de Versailles. X m'a demandé s'il fallait la produire. J'ai autorisé. Vous recevrez les derniers pamphlets de Thévenot, de Morande et de Delisle contre la Dubarry. Ce sont des pétards qui feraient sauter une ville. Une mauvaise humeur m'était venue et il y avait encore de la disgrâce dans l'air. Mais vous ne m'avez pas encore écrit et j'en ris. Cependant, ne me laissez pas dans le doute et répondez-moi courrier par courrier. Votre message me trouvera à Caen où j'ai quelques-uns de nos messieurs à pratiquer. Adieu, je vous embrasse, Duchesse de Gramont. Lorenza s'arrêta après cette lecture. « Vous ne voyez rien autre chose ?» demanda Balsamo. « Je ne vois rien. Pas de post-scriptum ?»« Non. » Balsamo, dont le front s'était déridé à mesure qu'elle lisait, reprit à Lorenza la lettre de la Duchesse. « Pièce curieuse, dit-il, et que l'on me payerait bien cher. Ah, comment écrit-on de pareilles choses ? » s'écria-t-il. « Oui, ce sont les femmes qui perdent toujours les hommes supérieurs. Ce Choiseul n'a pu être renversé par une armée d'ennemis, par un monde d'intrigues, et voilà que le souffle d'une femme l'écrase en le caressant. Oui, nous périssons tous par la trahison ou la faiblesse des femmes. » Si nous avons un cœur, et dans ce cœur une fibre sensible, nous sommes perdus. » Et en disant ces mots, Balsamo regardait, avec une tendresse inexprimable, Lorenza, palpitante sous ce regard. « Est-ce vrai ? » lui dit-il, « ce que je pense ?»« Non, non, ce n'est pas vrai, » répliqua-t-elle ardemment. « Tu vois bien que je t'aime trop, moi, pour te nuire, comme toutes ces femmes sans raison et sans cœur. » Balsamo se laissa enlacer par les bras de son enchanteresse. Tout à coup, un double tintement de la sonnette de Fritz résonna 2 fois. « Deux visites, » dit Balsamo. Un violent coup de sonnette acheva la phrase télégraphique de Fritz. Et se dégageant des bras de Lorenza, Balsamo sortit de sa chambre, laissant la jeune femme toujours endormie. Il rencontra le courrier sur son chemin. Celui-ci attendait les ordres du maître. « Voici la lettre, » dit Balsamo. « Qu'en faut-il faire ? » ?»« La remettre à son adresse. » »« C'est tout. » L'adepte regarda l'enveloppe et le cachet, et, les voyant intacts, comme il les avait apportés, manifesta sa joie et disparut dans les ténèbres. « Quel malheur de ne pas garder un pareil autographe, » dit Balsamo, « et quel malheur surtout de ne pas pouvoir le faire passer par des mains sûres entre les mains du roi. » Fritz apparut alors au-devant de lui. « Qui est là ? » demanda-t-il. « Un homme et une femme. » « Sont-ils déjà venus ici ? » ?»« Non. » « Les connais-tu ? » ?»« Non. » « La femme est-elle jeune ? » ?»« Jeune et jolie. » »« L'homme ? » ?»« 60 à 65 ans. » »« Où sont-ils ? » « Dans le salon. » Balsamo entra. La comtesse avait complètement caché son visage sous une mante. Comme elle avait eu le temps de passer à l'hôtel de famille, son costume était celui d'une petite bourgeoise. Elle était venue en fiacre avec le maréchal qui, plus timide, s'était habillé de gris comme un valet supérieur de bonne maison. « Monsieur le comte, » dit Madame du Barry, « me reconnaissez-vous ? » ?»« Parfaitement, Madame la comtesse. » Richelieu restait en arrière. « Veuillez vous asseoir, madame, et vous aussi, monsieur. »« Monsieur est mon intendant, » dit la comtesse. « Vous faites erreur, madame, » répliqua Balsamo en s'inclinant. « Monsieur est monsieur le duc de Richelieu, que je reconnais à merveille et qui serait bien ingrat s'il ne me reconnaissait pas. »« Comment cela ?» demanda le duc, tout déféré, comme dirait Talmand des Réaux. « Monsieur le duc, on doit un peu de reconnaissance à ceux qui nous ont sauvé la vie, je pense. »« Ah, ah, duc !» dit la comtesse en riant. « Entendez-vous, duc ? » ?»« Vous m'avez sauvé la vie, à moi, monsieur le comte ?» fit Richelieu étonné. Oui, monseigneur, à Vienne, en 1725, lors de votre ambassade. En 1725, vous n'étiez pas né, mon cher monsieur. Il me semble que si, monsieur le duc, dit-il, puisque je vous ai rencontré mourant, ou plutôt mort, sur une litière. Vous veniez de recevoir un coup d'épée au beau travers de la poitrine, à telles enseignes que je vous ai versé sur la plaie 3 gouttes de mon élixir. Là, tenez, à l'endroit où vous chiffonnez votre poing d'Alençon, un peu riche pour un intendant. Mais, interrompit le maréchal, vous avez 30 à 35 ans, à peine, monsieur le comte. Allons donc, duc, s'écria la comtesse en riant aux éclats, vous voilà devant le sorcier, y croyez-vous? Je suis stupéfait, comtesse, mais alors, continua le duc en s'adressant à nouveau à Balsamo, mais alors, vous vous appelez... Oh, nous autres sorciers, monsieur le duc, vous le savez, nous changeons de nom à toutes les générations, et en 1725, c'était la mode des noms en ous, en os et en as, et... Il ne m'étonnerait pas quand, à cette époque, il m'aurait pris la fantaisie de troquer mon nom pour quelque nom grec ou latin. Ceci posé, je suis à vos ordres, madame la comtesse, à vos ordres, monsieur le duc. Comte, nous venons vous consulter, le maréchal et moi. C'est beaucoup d'honneur que vous me faites, madame, surtout si c'est naturellement que cette idée vous est venue. Le plus naturellement du monde, comte, votre prédiction me court par la tête, seulement je doute qu'elle se réalise. Ne doutez jamais de ce que dit la science, madame. Oh, fit Richelieu, c'est que notre couronne est bien aventurée, comte. Il ne s'agit pas ici d'une blessure que l'on guérit avec 3 gouttes d'élixir. Non, mais d'un ministre que l'on renverse avec 3 paroles, répliqua Balsamo. Eh bien, ai-je deviné? Dites, voyons. Parfaitement, dit la comtesse toute tremblante. En vérité, duc, que dites-vous de tout cela? Oh, ne vous étonnez pas pour si peu, madame, dit Balsamo, qui, voyant madame du Barry et Richelieu inquiets, dut deviner pourquoi, sans sorcellerie. Aussi, ajouta le maréchal, vous adorerais-je si vous nous indiquiez le remède à la maladie qui vous travaille? Oui, nous avons le choiseul, et vous voudrez bien être guéri. Oui, grand magicien, justement. Monsieur le comte, vous ne nous laisserez pas dans l'embarras, dit la comtesse, il y va de votre honneur. Je suis tout prêt à vous servir de mon mieux, madame. Cependant, je voudrais savoir si monsieur le duc n'avait pas d'avance quelque idée arrêtée en venant ici. Je l'avoue, monsieur le comte, ma foi, c'est charmant d'avoir un sorcier que l'on peut appeler monsieur le comte. Cela ne vous change pas vos habitudes. Balsamo sourit. Voyons, reprit-il, soyez franc. Sur l'honneur, je ne demande pas mieux, dit le duc. Vous avez quelques consultations à me demander? C'est vrai. Ah, sournois, dit la comtesse, il ne m'en parlait pas. Je ne pouvais dire cela qu'à monsieur le comte, et dans le creux le plus secret de l'oreille encore, répondit le maréchal. Pourquoi donc? Parce que vous eussiez rougi, comtesse, jusqu'au blanc des yeux. Ah, par curiosité, dites, maréchal, j'ai du rouge, on n'en verra rien. Eh bien, dit Richelieu, voici ce à quoi j'ai pensé. Prenez garde, comtesse, je jette mon bonnet par-dessus les moulins. Jetez, duc, je vous le renverrai. Oh, c'est que vous allez me battre tout à l'heure si je dis ce que je veux dire. Vous n'êtes pas accoutumé à être battu, monsieur le duc, dit Balsamo au vieux maréchal, enchanté du compliment. Eh bien donc, reprit-il, voici, n'en déplaise à madame, à sa majesté, oh, comment vais-je dire cela? Oh, qu'il est mortel de lenteur, s'écria la comtesse. Vous le voulez donc? Oui, absolument, mais oui, 100 fois oui. Alors je me risque, c'est une chose triste à dire, monsieur le comte, mais sa majesté n'est plus amusable. Le mot n'est pas de moi, comtesse, il est de madame de Maintenon. « Il n'y a rien là qui me blesse, duc, dit madame du Barry. Tant mieux, 1000 fois. Alors je serai à mon aise. Eh bien, il faudrait que monsieur le comte, qui trouve de si précieux élixirs... »« en trouva un, dit Balsamo, qui rendit au roi la faculté d'être amusé. Justement. Bien, monsieur le duc, c'est là un enfantillage, l'ABC du métier. Le premier charlatan trouvera un filtre dont la vertu, continua le duc, sera mise sur le compte du mérite de madame. Duc, s'écria la comtesse, ah, je le savais bien que vous vous fâcheriez, et c'est vous qui l'avez voulu. Monsieur le duc, répliqua Balsamo, vous avez eu raison. Voici madame la comtesse qui rougit. Mais tout à l'heure, nous le disions, il ne s'agit pas de blessure ici, non plus que d'amour. Ce n'est pas avec un filtre que vous débarrasserez la France de monsieur de Choiseul. En effet, le roi aima-t-il madame 10 fois plus qu'il ne fait? C'est impossible. Monsieur de Choiseul conserverait sur son esprit le prestige et l'influence que madame exerce sur le cœur. C'est vrai, dit le maréchal, mais c'était notre seule ressource. Vous croyez? Mesdames, trouvez-en une autre. Oh, je crois la chose facile. Facile, entendez-vous, comtesse, ces sorciers ne doutent de rien. Pourquoi douter quand il s'agit tout simplement de prouver au roi que monsieur de Choiseul le trahit, au point de vue du roi, bien entendu, car monsieur de Choiseul ne croit pas trahir en faisant ce qu'il fait. Et que fait-il? Vous savez aussi bien que moi, comtesse, il soutient la révolte du Parlement contre l'autorité royale. Certainement, mais il faudrait savoir par quels moyens. Par le moyen d'agents qui les encouragent en leur promettant l'impunité. Quels sont ces agents? Voilà ce qu'il faudrait savoir. Croirez-vous, par exemple, que madame de Gramont soit partie pour autre chose que pour exalter les chauds et échauffer les timides? Certainement qu'elle n'est point partie pour autre chose, s'écria la comtesse. Oui, mais le roi ne voit dans ce départ qu'un simple exil. C'est vrai. Comment lui prouver qu'il y a dans ce départ autre chose que ce qu'on veut y laisser voir? En accusant madame de Gramont. Ah, s'il ne s'agissait que d'accuser, comte, dit le maréchal. Il s'agit malheureusement de prouver l'accusation, dit la comtesse. Et si cette accusation était prouvée, bien prouvée, croyez-vous que monsieur de Choiseul resterait ministre? Assurément non, s'écria la comtesse. Il ne s'agit donc que de trouver une trahison de monsieur de Choiseul, poursuivit Balsamo avec assurance, et de la faire surgir claire, précise et palpable aux yeux de sa majesté. Le maréchal se renversa dans son fauteuil en riant aux éclats. Il est charmant, s'écria-t-il. Il ne doute de rien. Trouver monsieur de Choiseul en flagrant délit de trahison. Voilà tout, pas davantage. Balsamo demeura impassible et attendit que l'accès d'hilarité du maréchal fût bien passé. Voyons, dit alors Balsamo, parlons sérieusement et récapitulons. Soit. Monsieur de Choiseul n'est-il pas soupçonné de soutenir la rébellion du Parlement? C'est convenu, mais la preuve. Monsieur de Choiseul ne passe-t-il pas, continua Balsamo, pour ménager une guerre avec l'Angleterre afin de se conserver un rôle d'homme indispensable? On le croit, mais la preuve. Enfin, monsieur de Choiseul n'est-il pas l'ennemi déclaré de madame la comtesse que voici? Et ne cherche-t-il pas, par tous les moyens possibles, à la renverser du trône que je lui avais promis? Ah, pour cela, c'est bien vrai, dit la comtesse. Mais encore faudrait-il le prouver? Ah, oh, si je le pouvais! Que faut-il pour cela? Une misère. Le maréchal se mit à souffler sur ses ongles. Oui, une misère, dit-il ironiquement. Une lettre confidentielle, par exemple, dit Balsamo. Voilà tout, peu de choses. Une lettre de madame de Gramont, n'est-ce pas, monsieur le maréchal? Continua le comte. Sorcier, mon bon sorcier, trouvez-en donc une, s'écria madame du Barry. Voilà 5 ans que j'y tâche, moi. J'y ai dépensé 100 000 écus par an, et je ne l'ai jamais pu. Parce que vous ne vous êtes pas adressé à moi, madame, dit Balsamo. Comment cela? Fit la comtesse. Sans doute, si vous vous fussiez adressé à moi, eh bien, je vous eusse tiré d'embarras. Vous? Oui, moi. Comte, est-il trop tard? Le comte sourit. Jamais. Oh, mon cher comte, dit madame du Barry en joignant les mains. Donc vous voulez une lettre?
Oui,
de madame de Gramont, si c'est possible. Qui compromette monsieur de Choiseul sur les trois points que j'ai dits. C'est-à-dire que je donnerai un de mes yeux pour la voir. Oh, comtesse, ce serait trop cher, d'autant plus que cette lettre...
Cette lettre, je vous la donnerai pour rien, moi.
Et Balsamo tira de sa poche un papier plié en quatre. Qu'est cela? Demanda la comtesse, dévorant le papier des yeux.
Oui, qu'est cela? Interrogea le duc.
La lettre que vous désirez. Et le comte, au milieu du plus profond silence, lut aux deux auditeurs émerveillés la lettre que nos lecteurs connaissent déjà. Au fur et à mesure qu'il lisait, la comtesse ouvrait de grands yeux et commençait à perdre contenance.
« C'est une calomnie, diable, prenons garde !» murmura Richelieu quand Balsamo eut achevé.
« C'est, monsieur le duc, la copie pure, simple et littérale d'une lettre de madame la duchesse de Gramont qu'un courrier expédié ce matin de Rouen est en train de porter à monsieur le duc de Choiseul, à Versailles. »
Ah, mon Dieu, s'écria le maréchal, dites-vous vrai, monsieur Balsamo?
Je dis toujours vrai, monsieur le maréchal. La duchesse aurait écrit une semblable lettre.
Oui, monsieur le maréchal.
Elle aurait eu cette imprudence.
C'est incroyable, je l'avoue, mais cela est.
Le vieux duc regarda la comtesse qui n'avait plus la force d'articuler un seul mot.
« Eh bien, dit-elle, enfin, je suis comme le duc, j'ai peine à croire, pardonnez-moi, monsieur le comte, que madame de Gramont, une femme de tête, ait compromis toute sa position et celle de son frère par une lettre de cette force. D'ailleurs, pour connaître une semblable lettre, il faut l'avoir lue. »
Et puis, se hâta de dire le maréchal, si monsieur le comte avait lu cette lettre, il l'aurait gardée, c'est un trésor précieux.
Balsamo secoua doucement la tête.
« Oh, monsieur, dit-il, ce moyen est bon pour ceux qui décachètent les lettres afin de connaître des secrets, mais non pour ceux qui, comme moi, lisent à travers les enveloppes. Fi donc, quel intérêt d'ailleurs aurais-je, moi, à perdre monsieur de Choiseul et madame de Gramont? Vous venez me consulter, en ami, je suppose, je vous réponds de même. » Vous désirez que je vous rende un service, je vous le rends. Vous ne venez pas, j'imagine, me proposer le prix de ma consultation comme au devineur du quai de la ferraille.
Au comte, fit madame du Barry.
Eh bien, je vous donne un conseil et vous ne me paraissez pas le comprendre. Vous m'annoncez le désir de renverser monsieur de Choiseul et vous en cherchez les moyens. Je vous en cite un, vous l'approuvez, je vous le mets en main et vous n'y croyez pas.
C'est que, comte, écoutez donc.
La lettre existe, vous dis-je, puisque j'en ai copie.
Mais enfin, qui vous a averti, monsieur le comte? S'écria Richelieu.
Ah, voilà le grand mot. Qui m'a averti?
En une minute, vous voulez en savoir autant que moi, le travailleur, le savant, l'adepte, qui ai vécu 3700 années.
Oh, dit Richelieu avec découragement, vous allez me gâter la bonne opinion que j'avais de vous, comte.
Oh, je vous prie de ne pas me croire, monsieur le duc, ce n'est pas moi qui étais vous chercher à la chasse du roi.
Duc, il a raison, dit la comtesse. Monsieur de Balsamo, je vous en prie, pas d'impatience.
Jamais celui qui a le temps ne s'impatiente, madame.
Soyez assez bon, joignez cette faveur à toutes celles que vous m'avez faites pour me dire comment vous avez eu la révélation de pareils secrets.
Je n'hésiterai pas, madame, dit Balsamo, aussi lentement que s'il cherchait mot à mot sa réponse.
Cette révélation m'est faite par une voix.
Par une voix, s'écrièrent ensemble le duc et la comtesse, une voix qui vous dit tout.
Tout ce que je désire savoir, oui.
Et c'est une voix qui vous a dit ce que madame de Gramont avait écrit à son frère.
Je vous affirme, madame, que c'est une voix qui me l'a dit.
C'est miraculeux.
Mais vous n'y croyez pas.
Eh bien non, comte, dit le duc, comment voulez-vous donc que l'on croie à de pareilles choses?
Mais y croiriez-vous si je vous disais ce que fait à cette heure le courrier qui porte la lettre de monsieur de Choiseul?
Dame, répliqua la comtesse, Moi, s'écria le duc, j'y croirais si j'entendais la voix, mais messieurs les nécromanciens ou les magiciens ont ce privilège que seuls ils voient et entendent le surnaturel. Balsamo attacha les yeux sur monsieur de Richelieu avec une expression singulière qui fit passer un frisson dans les veines de la comtesse et détermina chez le sceptique égoïste qu'on appelait le duc de Richelieu un léger froid à la nuque et au cœur. « Oui, dit-il après un long silence, seul je vois et j'entends les objets et les êtres surnaturels, mais quand je me trouve avec des gens de votre rang, de votre esprit, duc, et de votre beauté, comtesse, j'ouvre mes trésors, je partage. Vous plairait-il beaucoup d'entendre la voix mystérieuse qui m'avertit ?»« Oui, dit le duc en serrant les poings pour ne pas trembler. « Oui, balbutia la comtesse en tremblant. » Eh bien, monsieur le duc, eh bien, madame la comtesse, vous allez entendre. Quelle langue voulez-vous qu'elle parle? Le français, s'il vous plaît, dit la comtesse, je n'en sais pas d'autre, et une autre me ferait trop peur. Et vous, monsieur le duc, comme madame, le français, je tiens à répéter ce qu'aura dit le diable, et à voir s'il est bien élevé, et s'il parle correctement la langue de mon ami, monsieur de Voltaire. Balsamo, la tête penchée sur sa poitrine, marcha vers la porte qui donnait dans le petit salon, lequel ouvrait, on le sait, sur l'escalier. « Permettez, dit-il, que je vous enferme, afin de ne point trop vous exposer. » La comtesse pâlit et se rapprocha du duc, dont elle prit le bras. Balsamo, touchant presque à la porte de l'escalier, allongea le pas vers le coin de la maison où se trouvait Lorenza, et en langue arabe, il prononça d'une voix éclatante ces mots que nous traduirons en langue vulgaire. « Mon ami, m'entendez-vous? Si vous m'entendez, tirez le cordon de la sonnette et sonnez deux fois. » Balsamo attendit l'effet de ces paroles en regardant le duc et la comtesse qui ouvraient d'autant plus les yeux et les oreilles qu'ils ne pouvaient comprendre ce que faisait le comte. La sonnette vibra nettement à deux reprises. La comtesse se bondit sur son sofa, le duc s'essuya le front avec son mouchoir. « Puisque vous m'entendez, poursuivit Balsamo dans le même idiome, poussez le bouton de marbre qui figure l'œil droit du lion sur la sculpture de la cheminée, la plaque s'ouvrira, passez par cette plaque, traversez ma chambre, descendez l'escalier et venez jusque dans la chambre attenante à celle où je suis. » Un moment après, un bruit léger comme un souffle insaisissable, comme un vol de fantôme, avertit Balsamo que ses ordres avaient été compris et exécutés. « Quelle est cette langue ?» dit Richelieu, jouant à l'assurance, « la langue cabalistique ?»« Oui, monsieur le duc, le dialecte utilisé pour l'évocation. Vous aviez dit que nous comprendrions. Ce que dirait la voix, oui, mais non pas ce que je dirais moi. » « Le diable est venu ? Qui vous a parlé du diable, monsieur le duc ? Mais il me semble qu'on n'évoque que le diable. Tout ce qui est esprit supérieur, être surnaturel, peut être évoqué. Et l'esprit supérieur, l'être surnaturel ?» Balsamo étendit la main vers la tapisserie qui fermait la porte de la chambre voisine. « Est en communication directe avec moi, monseigneur. » « J'ai peur, dit la comtesse, et vous, duc ? Ma foi, comtesse, je vous avoue que j'aimerais presque autant être à Mahon ou à Philippsbourg. Madame la comtesse et vous, monsieur le duc, veuillez écouter, puisque vous voulez entendre, dit sévèrement Balsamo, et il se tourna vers la porte. Il y eut un moment de silence solennel. Puis Balsamo demanda en français, « Êtes-vous là ?» « J'y suis, » répondit une voix pure et argentine qui, perçant les tentures et les portières, retentit aux oreilles des assistants plutôt comme un timbre métallique que comme les accents d'une voix humaine. « Peste, voilà que ça devient intéressant, » dit le duc, « et tout cela sans flambeau, sans magie, sans flamme du Bengale. »« C'est effrayant, » murmura la comtesse. « Faites bien attention à mes interrogations, » continua Balsamo. J'écoute de tout mon être. Dites-moi d'abord combien de personnes sont avec moi en ce moment. Deux. De quel sexe? Un homme et une femme. Lisez dans ma pensée le nom de l'homme. Monsieur le duc de Richelieu. Et celui de madame ?
Madame la comtesse du Barry.
Ah, ah, murmura le duc, c'est assez fort, ceci.
C'est-à-dire, murmura la comtesse tremblante, c'est-à-dire que je n'ai jamais rien vu de pareil.
Bien, dit Balsamo, maintenant lisez la première phrase de la lettre que je tiens.
La voix obéit. Le comtesse et le duc se regardaient avec un étonnement qui commençait à toucher à l'admiration.
Cette lettre que j'ai écrite sous votre dictée, qu'est-elle devenue ?
Elle court.
De quel côté ?
Du côté de l'Occident.
Est-elle loin ?
Oh oui, bien loin, bien loin.
Qui la porte ?
Un homme vêtu d'une veste verte, coiffé d'un bonnet de peau, chaussé de grandes bottes.
Est-il à pied ou à cheval ?
Il est à cheval.
Quel cheval monte-t-il ?
Un cheval pie.
Où le voyez-vous ?
Il eut un moment de silence.
« Regardez, dit impérieusement Balsamo,
sur une grande route plantée d'arbres.
Mais sur quelle route ?
Je ne sais, toutes les routes se ressemblent.
Quoi, rien ne vous indique quelle est cette route ? Pas un poteau, pas une inscription, rien ?
Attendez, attendez, une voiture passe près de cet homme à cheval. Elle le croise, venant vers moi.
Quelle espèce de voiture ?
Une lourde voiture pleine d'abbés et de militaires.
Une patache, murmura Richelieu. Cette voiture ne porte aucune inscription, demanda Balsamo.
Si fait, répondit la voix.
Lisez.
Sur la voiture, je lis Versailles en lettres jaunes, presque effacées.
Bon, quittez cette voiture et suivez le courrier.
Je ne le vois plus.
Pourquoi ne le voyez-vous plus?
Parce que la route tourne.
Tournez la route et rejoignez-le.
Oh, il court de toute la force de son cheval, il regarde à sa montre.
Que voyez-vous en avant du cheval ?
Une longue avenue, des bâtiments superbes, une grande ville.
Suivez toujours.
Je le suis.
Eh bien ?
Le courrier frappe toujours son cheval à coups redoublés. L'animal est trempé de sueur. Ses fers font sur le pavé un bruit qui fait tourner tous les passants.
Ah, le courrier entre dans une longue rue qui va en descendant.
Il tourne à droite. Il ralentit le pas de son cheval. Il s'arrête à la porte d'un vaste hôtel.
Ah, c'est ici qu'il faut le suivre avec attention. Entendez-vous ?
La voix poussa un soupir.
Vous êtes fatigué, je comprends cela.
Oh, brisé.
Que cette fatigue disparaisse, je le veux.
Ah, eh bien, merci.
Êtes-vous fatigué encore ?
Non.
Voyez-vous toujours le courrier ?
Attendez, oui, oui. Il monte un grand escalier de pierre. Il est précédé par un valet en livrée bleue et or. Il traverse de grands salons pleins de dorures. Il arrive à un petit cabinet éclairé. Le laquais ouvre la porte et se retire.
Que voyez-vous ?
Le courrier salue.
Qui salue-t-il ?
Attendez, il salue un homme assis à un bureau et qui tourne le dos à la porte.
Comment est habillé cet homme ?
Oh, en grande toilette comme pour un bal.
A-t-il quelques décorations ?
Il porte un grand ruban bleu en sautoir.
Son visage ?
Je ne le vois pas.
Ah !
Quoi ?
Il se retourne.
Quelle physionomie a-t-il ?
Le regard vif, des traits irréguliers, de belles dents.
Quel âge ?
50 à 58 ans.
Le duc, souffla la comtesse au maréchal.
C'est le duc.
Le maréchal fit de la tête un signe qui signifiait « Oui, c'est lui, mais écoutez ».
Ensuite, commanda Balsamo, le courrier remet à l'homme au cordon bleu.
Vous pouvez dire le duc, c'est un duc.
Le courrier, reprit la voix obéissante, remet au duc une lettre qu'il tire d'un sac de cuir qu'il portait derrière son dos.
Le duc la décachette et la lit avec attention.
Après,
il prend une plume, une feuille de papier et il écrit.
Il écrit, murmura Richelieu, diable, si l'on pouvait savoir ce qu'il écrit, ce serait beau cela.
Dites-moi ce qu'il écrit, ordonna Balsamo.
Je ne puis.
Parce que vous êtes trop loin, entrez dans le cabinet.
Y êtes-vous ?
Oui.
Penchez-vous par-dessus son épaule.
M'y voici.
Lisez-vous maintenant ? L'écriture est mauvaise, fine, hachée. Lisez, je le veux. » La comtesse et Richelieu retinrent leur haleine. « Lisez !» reprit Balsamo d'un ton plus impératif encore. « Ma sœur, » dit la voix en tremblant et en hésitant. « C'est la réponse !» murmurèrent ensemble le duc de Richelieu et la comtesse. « Ma sœur, » reprit la voix, « rassurez-vous, la crise a eu lieu, c'est vrai, elle a été rude, c'est vrai encore, mais elle est passée. J'attends demain avec impatience, car demain, à mon tour, je compte prendre l'offensive, et tout me porte à espérer un succès décisif. Bien pour le Parlement de Rouen, bien pour Milord X, bien pour le pétard. Demain, après mon travail avec le roi, j'ajouterai un post-scriptum à ma lettre, et je vous l'enverrai par le même courrier. » Balsamo, la main gauche étendue, semblait arracher péniblement chaque parole à la voix, tandis que de sa main droite il crayonnait à la hâte ces lignes qu'à Versailles M. de Choiseul écrivait dans son cabinet. « C'est tout ?» demanda Balsamo. « C'est tout. Que fait le duc maintenant ? Il plie en deux le papier sur lequel il vient d'écrire, puis en deux encore, et le met dans un petit portefeuille rouge qu'il tire du côté gauche de son habit. « Vous entendez ?» dit Balsamo, à la comtesse se plonger dans la stupeur. « Et ensuite ?» « Ensuite, il congédie le courrier en lui parlant. Que lui dit-il ? Je n'ai entendu que la fin de la phrase. C'était « À 1 heure, à la grille de Trianon. » Le courrier salue et sort. « C'est cela, » dit Richelieu. « Il donne rendez-vous au courrier à la sortie du travail, comme il dit dans sa lettre. » Balsamo fit un signe de la main pour commander le silence. « Maintenant, que fait le duc ? » demanda-t-il. « Il se lève, il tient à la main la lettre qu'on lui a remise, il va droit à son lit, passe dans la ruelle, pousse un ressort qui ouvre un coffret de fer, il y jette la lettre et referme le coffret. « Oh !» s'écrièrent le duc et la comtesse à foi, tout pâle. « Oh, c'est magique en vérité !»« Savez-vous tout ce que vous désiriez savoir, madame ?» demanda Balsamo. « Monsieur le comte, » dit madame du Barry en s'approchant de lui avec terreur, « vous venez de me rendre un service que je payerai de 10 ans de ma vie, ou plutôt que je ne pourrai jamais payer. Demandez-moi ce que voudrez. »« Oh, madame, vous savez que nous sommes déjà en compte. Dites, dites ce que vous désirez. Le temps n'est pas venu. Eh bien, lorsqu'il sera venu, fût-ce 1 million, » Balsamo sourit. « Hé, comtesse, s'écria le maréchal, ce serait plutôt à vous de demander 1 million au comte. L'homme qui sait ce qu'il sait, et surtout qui voit ce qu'il voit, ne découvre-t-il pas l'or et les diamants dans les entrailles de la terre, comme il découvre la pensée dans le cœur des hommes ?»« Allons, comte, dit la comtesse, je me prosterne dans mon impuissance. » « Non, comtesse, un jour, vous vous acquitterez envers moi, je vous en donne l'occasion. » « Comte, dit le duc à Balsamo, je suis subjugué, vaincu, écrasé, je crois. »« Comme saint Thomas a cru, n'est-ce pas, monsieur le duc, cela ne s'appelle pas croire, cela s'appelle voir. »« Appelez la chose comme vous voudrez, mais je fais amende honorable, et quand on me parlera désormais de sorcier, eh bien, je saurai ce que j'ai à dire. » Balsamo sourit. « Maintenant, madame, dit-il à la comtesse, voulez-vous permettre une chose ?»« Dites, mon esprit est fatigué, laissez-moi lui rendre sa liberté par une formule magique. »« Faites, monsieur. » »« Lorenza, dit Balsamo en arabe, merci, je t'aime, retourne à ta chambre par le même chemin que tu as pris en venant et attends-moi, va, ma bien-aimée. » « Je suis bien fatigué, » répondit en italien la voix, plus douce encore que pendant l'évocation. « Dépêche-toi, Acarat. » « J'y vais. » Et l'on entendit avec le même frôlement les pas s'éloigner. Puis Balsamo, après quelques minutes, pendant lesquelles il se convainquit du départ de Lorenza, salua profondément, mais avec une dignité majestueuse, les deux visiteurs qui, effarés tous deux absorbés par le flot des tumultueuses pensées qui les envahissaient, regagnèrent leur fiacre plutôt comme des gens ivres que comme des êtres doués de raison.